Une seule lecture, mais une longue lecture, puisque je lirai pour vous le livre de Jonas. Courage. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menacé de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Là, dans notre texte, je ne vais pas lire le livre entier, mais dans le texte, Jonas est donc avalé par le poisson, et au fond du ventre du poisson, il prie. Je vous épargne sa prière, et je reprends à la fin du chapitre 2. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son vêtement, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive un décret royal pour imposer à tout le peuple un temps de jeûne et de repentance. Je passe. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Là, je vous passe l'histoire d'un ricin, une plante que Dieu fait pousser au-dessus de la tête pour lui faire de l'ombre et qu'il fait disparaître tout de suite après, le lendemain. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes et des animaux en grand nombre. Et le texte s'arrête là. Notre Dieu, par ton esprit, éclaire-nous par ces paroles. Voilà, mes amis, peut-être que certains parmi vous, ce matin, ont des enfants dans notre basement qui sont en cet instant même en train d'entendre cette histoire de Jonas. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on va leur en dire. Je ne maîtrise pas ça. Je maîtrise encore moins ce qu'ils vont en retenir de cette histoire avec laquelle ils vont grandir. Et ça me fait sourire de savoir ce que vous allez pouvoir leur en dire après ce moment de sermon, quand vous pourrez en discuter avec eux. En tout cas, il s'agit pour nous tous de trouver notre propre histoire de Jonas et comment chacun, chacune, finalement, nous l'approprier aujourd'hui. Bon, l'histoire et le personnage de l'histoire sont tout à fait passionnants à lire et plutôt sympathiques à méditer, tellement riches, vous l'avez compris, que nous n'arriverons quand même pas à clore tout ce livre et à dire tout ce qu'il y aurait à dire sur lui, juste en un sermon. On découvre là, en tout cas, un prophète étrange qui refuse catégoriquement d'aller prêcher à des païens et qui en veut à Dieu finalement de les avoir épargnés. On a l'impression d'y voir là les réactions d'un prophète juif très nationaliste et carrément haineux du païen. Alors il y a quelques années encore, on croyait que Jonas était une histoire vraie. Là, j'espère que je ne casse aucun rêve chez personne, mais aujourd'hui, on sait que, comme pour Pinocchio, c'est un conte. C'est un conte théologique qui a quelque chose à nous dire, dont le sens est à rechercher, parce que dans ce conte, des vérités se transmettent. Vous savez, c'est pas comme s'il y avait d'un côté l'histoire avec la vérité, et de l'autre le conte avec l'erreur. Ça ne marche pas comme ça. Sur la petite feuille que vous avez dans vos cantiques, il y a une citation de Paul Ricoeur que j'aime bien. « Il y a toujours une expérience vraie qui n'aspire qu'à être racontée, qui crie pour être entendue, mais à un niveau profond qu'on ne voit pas. » Eh bien, c'est ce qui se passe avec Jonas. Il nous interroge. Quelle est l'intention de l'auteur? Quel est le sens du livre? Alors prenons le temps d'explorer quelques pistes qu'il nous livre justement pour en savoir plus et essayons d'abord de répondre à ces trois questions. Qui est Jonas? Qui est Dieu dans cette histoire? Et quel avenir nous ouvre le livre de Jonas? Alors il va nous falloir mener l'enquête. Alors, qui est Jonas? Au second livre des Rois, au chapitre 14, il y a bien un Jonas, fils d'Amittai, mais on est là au 8e siècle avant Jésus-Christ, et on comprend donc que c'est un prête-nom, ce Jonas. J'ai dit tout à l'heure un mot sur le côté nationaliste de ce prophète, par ailleurs inconnu. Est-ce que ce trait ne pointerait pas peut-être vers un milieu théologique particulier dont l'auteur ferait de Jonas le représentant? Et déjà, le livre de Jonas prend tout à coup un sens nouveau. Si Jonas n'est pas un être de chair et de sang, mais le représentant d'un groupe, un peu comme Ninive et les marins sont les représentants du groupe des païens, on va dire, dans notre histoire. Mais si Jonas est le reflet d'un milieu, alors du coup, quel est ce milieu? Comme en fait le livre n'offre aucun repère chronologique d'aucune sorte, il faut deviner de quelle époque on parle pour essayer de deviner ce milieu et le faire comme dans ce genre de recherche en fouillant dans le style, dans le vocabulaire, en cherchant des indices qui trahissent toujours une époque. C'est un peu comme si on écrivait, on trouvait des écrits d'aujourd'hui, de nos jours, peut-être de ces quelques derniers siècles, dans quelques centaines d'années, et qu'on lise le mot pénicilline, mettons, on saura qu'on ne situe pas ça avant la Seconde Guerre mondiale. Covid-19, on saura très bien le situer dans le temps. Si on lit le mot smartphone, on sait que ce ne sera pas avant l'an 2000, vous comprenez. Eh bien, justement, le livre de Jonas, c'est un peu la même chose. Il se trouve qu'il renferme des mots, des tournures, des expressions qui ne se trouvent pas en Israël avant le VIe siècle. Alors, je vous épargne tous les exemples qui ont été mis en avant par ces spécialistes qui repèrent dans ces études de chaque mot ses origines et ces moments-là. On a en tout cas repéré que c'était des milieux très araméens. Donc l'araméen se situe aussi dans le temps entre l'exil et le temps de la Grèce, l'époque hellénistique. Au chapitre 3, pour vous donner un exemple, vous l'avez entendu, le roi fait publier un décret royal. Eh bien, en hébreu, le mot qui est utilisé là veut dire goûter, en araméen veut dire décret. Donc on arrive à situer que c'est bien cet araméen de cette époque-là. Et sans aller trop loin dans le temps, parce que non plus, à l'autre bout, on n'a aucune trace dans le texte d'indice, de style, de vocabulaire, de théologie grecque. Donc on sait qu'on ne peut pas descendre trop loin. Eh bien, notre enquête nous amène au 5e siècle, en gros, avant Jésus-Christ. Et donc maintenant, nous pouvons nous demander à quoi ressemble le judaïsme du 5e siècle. J'ai cherché et voici ce que j'ai trouvé pour vous. Au 5e siècle, le royaume de Juda n'existe quasiment plus. Il est réduit à être une minuscule province perse, toujours située en Israël, mais qui n'est qu'une petite province perse, avec quand même sa propre constitution, qui est la Torah. Le temple de Jérusalem se relève péniblement de ses ruines. Et la petite communauté juive de Jérusalem, à ce moment-là, est franchement intégriste, nationaliste et très cléricale. Toute repliée sur elle-même, très soucieuse de la pureté du sang, elle est sous la coupe des prêtres et des scribes, et ses horizons sont très étroits. Elle vit dans la hantise du péché et dans la haine du païen. Hantise du péché qui, au passage, est dénoncée par les prophètes comme étant ce qui a causé la chute du temple, la division du royaume d'Israël, le royaume de David, et même l'exil à Babylone. Tout ça aurait été causé par cette hantise du péché. Et la haine des nations, donc de ces nations qui avaient été l'instrument de la corruption d'Israël, voire de sa perte à certains moments, enferme cette communauté dans un nationalisme religieux farouche. Le Dieu des patriarches et des prophètes est accaparé au profit de ce petit royaume de Juda, de ce qu'il en reste. Et là, ils deviennent de farouches brexiteurs religieux. Les voilà qui excluent les femmes étrangères d'Israël. Les Samaritains sont aussi expulsés vers le nord du pays, en tout cas. Ils sont écartés et les nations païennes, elles sont toujours vouées à la haine et, si possible, à la destruction. Pour eux, il n'y a de sainteté qu'à Jérusalem et le grand Dieu qui jusque-là s'est fait connaître dans la Torah tente à devenir le Dieu de la communauté renfermée dans les étroites frontières d'un misérable petit canton. Voilà, alors avec cet arrière-fond en tête, ça peut nous aider à saisir l'antinationalisme du livre de Jonas. Tout s'éclaire, en tout cas, si Jonas représente, à trait appuyé, les nationalistes endurcis de la capitale. On comprend mieux. Ceux qui ne veulent pas voir au-delà de la limite de leur sanctuaire, de leur ville, de leur temple, de leur pays. Alors, quand on lit le livre dans cette perspective, le refus de Jonas devient beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible. Apporter la parole de Dieu à Ninive, la grande, c'est-à-dire représentante des nations païennes, c'est le contre-pied total de la théologie officielle, ambiante à Jérusalem. Et d'ailleurs, j'aime bien l'ironie de l'auteur qui ne cite même pas une seule fois ni le temple, ni Jérusalem, ni Juda. Si le temple apparaît dans la petite prière que Jonas fait dans le ventre du poisson, mais cette petite prière a été rajoutée pour rendre le livre plus cachère, parce que sinon, c'était terrible à lire pour les habitants de Jérusalem, ce livre-là. Donc on a rajouté, on va revenir peut-être sur ce petit psaume, mais en tout cas, c'était pas facile. C'était un livre qui n'était pas facile à digérer, à intégrer pour les religieux intégristes de la capitale. Parce que ce Dieu qui, dans ce livre, n'a qu'un seul souci, c'est le salut des païens, et cet Israël qui n'a qu'une seule mission, c'est d'être l'outil de ce salut, ça passe pas, c'est impossible, pour eux c'est trop. Et c'est pour ça que Jonas, au début, cherche à échapper à Dieu. Le salut des Ninivites ne l'intéresse pas beaucoup, même absolument pas, et Jonas est assez intelligent pour comprendre que Dieu veut le salut des habitants de Ninive. Hein, je savais que tu es un Dieu compatissant, lent, qui pardonne, lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal, etc. À ses yeux, les païens sont impurs. Mais voilà que sous la plume de notre auteur, les païens sont plus religieux que Jonas et surtout plus sympathiques. On voit d'abord les matelots païens appeler Dieu à l'aide, reconnaître de la main du Dieu d'Israël, reconnaître qu'il est là dans les éléments, que c'est lui qui est peut-être le principal concerné, prendre en horreur aussi la désobéissance de Jonas, et pour autant respecter la vie. On les voit se convertir même à la fin à ce Dieu d'Israël, au point de lui offrir un sacrifice. On voit surtout les Ninivites recevoir unanimement, avec une étonnante spontanéité, la parole qui leur est annoncée, et on les voit changer de vie. Alors qu'en pleine tempête, Jonas sommeille, réveillé brutalement par le capitaine du bateau, il ne se joint pas à la prière de tout le monde, il reste à l'écart, et sans même l'ajout du psaume, Jonas n'aurait jamais même remercié Dieu de l'avoir tiré de ce mauvais pas, à aucun moment. Même la mer, le poisson, le ricin se montrent plus dociles que Jonas aux ordres de Dieu. Comme si seul Jonas, parmi tous les êtres de la création, était insensible à ce Dieu qu'il confesse pourtant avec non sans fierté et avec une parfaite orthodoxie. Un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne les païens, c'est une idée particulièrement insupportable pour Jonas et pour la théologie qu'il représente. D'ailleurs, en lisant, je ne sais pas, mais on peut être choqué par le message que Jonas adresse à Ninive. Ce n'est pas un appel au pardon, c'est plutôt une menace. Dans 40 jours, Ninive est détruite. Ça pourrait être choquant. Et Dieu, d'ailleurs, ne pardonne pas tant en raison de la repentance de Ninive que parce qu'il est bonté dans ce livre. Et enfin, le dialogue que j'ai raccourci dans la lecture entre Dieu et Jonas à la fin peut faire penser à cette parabole de Jésus, l'ouvrier de la 11e heure, vous savez, où ces ouvriers viennent se plaindre au maître de la vigne ou de l'endroit où ils travaillent, parce qu'il y a un ouvrier qui est venu, qui a travaillé moins que les autres et qui est payé pareil. Et le maître qui décide de payer ce dernier ouvrier pareil lui dit « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici pour Jonas. La vision qu'il a de Dieu est corrompue. Au moment même où il confesse sa foi sur le bateau, où il confesse sa foi au Dieu d'Israël, il semble avoir oublié qu'il est en fait en état de rébellion à l'égard de ce Dieu qu'il confesse avec tant d'aplomb. C'est un signe. Il adore un Dieu qu'il fait bien petit, finalement, pour n'être que le Dieu d'Israël. Eh bien, l'intention de l'auteur, justement, c'est de changer le regard théologique du lecteur, de lui signifier combien Dieu est différent et bien plus grand que cette idole qu'il s'est forgée, un petit Dieu qui est à leur service, un Dieu qui venge les bien-aimés, oui, un Dieu qui pardonne à l'ennemi d'Israël, non, impossible. Et c'est là un des cris du petit livre de Jonas. D'abord aux religieux de Jérusalem, que nous pouvons aussi prendre pour nous. Des cris qui ont traversé les siècles et le temps jusqu'à nous rejoindre. Ce livre disait « Changez. Changez pour élargir votre vision de Dieu, votre manière de le comprendre, de l'interpréter. Ne l'enfermez pas dans vos dogmes, dans vos rituels, dans vos temples. Dieu s'écoute et se reconnaît chez l'autre, chez celui qui ne vous ressemble pas. Il se reconnaît dans celui qui n'est pas a priori une bonne personne, et peut-être même une personne qui vous a fait du mal, mais qui peut changer. Voilà ce que crie le livre. L'histoire et la fuite à Tarsis crient « Ne cherchez pas à trahir et à fuir votre destinée, parce que ça va mal se passer. Il va y avoir une tempête qui va se déclencher. » L'histoire des marins crie « Apprenez à prier avec ceux qui intercèdent, même s'ils n'ont pas la même foi que vous. » L'histoire du poisson crie « Apprenez à rendre grâce, même dans l'épreuve, et peut-être que ça sent le poisson partout autour de vous. » Apprenez ça. L'histoire des Ninivites crie « Il y a toujours un espoir de changement chez l'autre, même si je n'y crois pas toujours. » L'histoire du ricin crie « Apprenez à toujours vous réjouir du bonheur des autres, quand bien même ce serait un ennemi. » Alors un dernier détail un peu étrange de ce livre de Jonas, c'est que la fin n'est pas racontée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça s'arrête assez brutalement. On ne sait pas si Jonas va rester fâché à mort contre son Dieu ou s'il va comprendre que Dieu est différent de toujours ce qu'il a toujours pu penser ou croire et reconnaître de bonne grâce la bonté et la grâce de Dieu à l'égard des païens et des Ninivites, pour les habitants de Ninive. Peut-être même jusqu'à les rendre grâce pour cette bonté, comme lorsque lui en a eu besoin. On ne sait pas ce que Jonas décide. On ne sait pas même ce qu'il pense trop à la fin. Eh bien, peut-être parce que c'est à nous, mes amis, d'écrire la suite. Pour nous, pour tous les Jonas que nous sommes si facilement, et peut-être pour les Ninivites repentis que nous connaissons. Rester fâchés parce qu'ils sont pardonnés, ou changer la colère, l'amertume, en vraie gratitude et en action de grâce. Attendre de Dieu une justice qui punit systématiquement, ou décider de toujours laisser la porte ouverte au changement, à l'espérance, à la confiance, à la vie. Changer de regard sur ce qu'il est ou m'accrocher à ce que je crois savoir de lui. Alors écrivons la suite de l'histoire avec ce que nous sommes, comme Jonas, avec nos colères, nos hésitations, nos rancœurs, nos questions. Et malgré elles, écrivons la suite. Et la suite, pas forcément la fin. Chaque jour, Dieu nous laisse 40 jours pour changer notre regard, pour mieux le comprendre, pour mieux le chercher différemment, pour nous tourner vers lui et reconnaître qu'il est le Dieu de tous, où il n'est pas. Et si nous ne devions retenir qu'une idée, peut-être ce matin, de tout ce livre de Jonas, une idée à toujours garder avec nous, c'est que Dieu est toujours plus grand que ce que je crois.